décrypter, informer, divertir. Tout se passe sur vl-media.fr et sur ton app VL.
Bonsoir, il est 20h, vous êtes sur VL, premier média jeune de France. Vous écoutez votre émission socio-culturelle préférée, Les As du Placard.
La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la Terre.
Night Runner, Fantax, Nyctalope, l'archer blanc, Fulguros, Super Dupont. Ce soir, on va parler super-héros français. Dans les années 1930, apparaissent aux États-Unis les comic strips dans les comic books avec Mandrake, le magicien et le fantôme. Mais il faut attendre 1938 pour voir débarquer le premier super-héros au sens moderne du terme, Superman, créé par Jerry Siegel et Joe Shuster. Alors pour faire un super-héros moderne, il faut apparemment des pouvoirs extraordinaires, un super équipement, une double identité et le fameux costume. Mais est-ce qu'un super-héros, ça se résume juste à ça? La France a-t-elle déjà eu ses super-héros? Pour parler de ce thème, ce soir, j'ai des as plein mon plateau. L'as du cinéma, rédac chef est là. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Marie.
Alors dans quel film tu vas nous parler ce soir?
Ah, ça commence par Nicky, ça finit par Larson. Donc j'ai rien spoilé du tout, là, tu vois. C'est
Les Tuches 3.
Bon bah justement, vous venez de... On va voir ça tout à l'heure. Vous avez aussi notre as de la répartie qui est bien présent puisqu'il vient de parler. Salut Antoine.
Ça va Marie?
Oui, tu vas râler ce soir?
Je vais râler. Bon, ça va pas trop, mais je vais essayer quand même un peu de râler.
D'accord, je vois, j'entends à ta voix qu'on est dans le même état, donc oui. C'est assez sympathique. On a un nouveau qui débarque aussi, on va l'appeler l'as de la réflexion pour l'instant. Salut
Vincent. Vous me flattez ma chère. Ah,
Bonsoir.
Bonsoir.
Comment tu vas?
Plutôt bien.
Pas
écoute,
trop stressé?
Non.
D'accord, bah c'est
non,
bien.
Pas du tout, en fait.
Vous aurez aussi le droit à Skip où je vais blablater sur une de mes héroïnes. Et le meilleur pour la fin, on a l'as de la régie, Karl, qui ne va pas parler apparemment parce qu'il est occupé à faire son boulot.
Ok.
Il s'est mis une petite musique.
Ouais,
à lui.
Ça fait plaisir.
D'accord, merci Karl.
C'est son ouais à lui.
Alors, aujourd'hui, tâchons de savoir si les super-héros, c'est dans notre culture. Et pour cela, je sors de ma manche notre atout de ce soir, Xavier Fournier. Bonsoir à vous.
Bonsoir, vous avez beaucoup de place dans votre manche, dites donc.
Oui, je. Oui, en plus je suis en t-shirt donc ça marche pas trop. Donc Xavier, vous avez été infographiste pour plusieurs jeux édités chez Infogrames, mais ça c'était par le passé. Aujourd'hui, vous êtes journaliste, écrivain, conférencier spécialisé dans le domaine des comics depuis 2020. Depuis 2011, vous étiez le rédac-chef du magazine Comics Box. Vous avez aussi écrit plusieurs livres comme Super-héros, deux points, une histoire française aux éditions Eugene Munin, je ne sais pas comment on prononce.
Eugene Munin,
d'accord. Qui vous fera gagner d'ailleurs le Grand Prix de l'Imaginaire de l'essai en 2015. Super, vous avez aussi fait Super-héros français en une anthologie, toujours aux éditions Eugene Munin en 2015. Et en 2016, c'est Super-héros l'envers du costume aux éditions Fantasque et Comics en guerre aux éditions Histoire et Collection que vous publiez. Est-ce que j'ai tout bon?
Oui.
Eh ben c'est parfait. Alors concernant le thème, ce week-end se déroule Paris Manga Sci-Fi Show, porte de Versailles, donc entre l'étape Île-de-France de la Coupe du Monde de cosplay, les dédicaces d'acteurs, de youtubeurs, de mangaka et d'artistes de comics. Vous y serez en tant que conférencier pour les 80 ans de Batman. Alors je me pose la question, qu'est-ce que vient faire Batman dans la Paris Manga Sci-Fi Show?
Eh ben... Il vous échappera pas que tous ces domaines-là se réunissent par finalement une culture de l'imaginaire. Ce sont des facettes différentes d'une même culture de l'imaginaire. Et d'ailleurs, quand on parle manga, finalement, c'est un imaginaire qui est situé au Japon. Les comics, c'est un imaginaire situé aux États-Unis. Ça vous a pas échappé. Et c'est vrai que c'est un peu particulier parce que est-ce qu'on dit finalement que les Américains font des movies pendant que nous on fait du cinéma? Donc il y a quand même des étiquettes un peu variables. Et puis il faut aussi dire la vérité, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de lecteurs de manga qui lisent des comics, qui regardent des séries télé,
c'est l'esprit geek. Voilà,
c'est pas seulement l'esprit geek, c'est que ça s'est beaucoup développé et que ne serait-ce que par le nombre de chaînes qu'on a aujourd'hui sur les box, le fait d'accéder à beaucoup de séries, dessins animés, de films et de choses comme ça, font que tous ces univers-là, maintenant, ils sont poreux, ils se parlent, ils font pas la gueule.
Bah c'est parfait,
ouais, donc. Je trouve que c'est très bien résumé. Ouais,
bah oui, voilà, on n'a plus rien à dire, du coup, avant d'entendre la chronique cinéma de Stéphane, hein, et qu'on en sache plus sur vous, Xavier, on va s'écouter Something Just Like This de The Chainsmokers and Coldplay. À tout de suite sur VL.
Legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself.
myself a moment list. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this.
Du placard sur VL, on vient de s'écouter Something Just Like This de The Chainsmokers et Coldplay. Et Stéphane, c'est à toi, mais avant, parce qu'il y en a des milliards, et même si vous ne pouvez le croire, ils regardent chaque soir des cinéphiles du même acabit, j'en connais peu, je vous le dis. Tragédie ou comédie, c'est l'heure des films du vendredi.
Salut à tous et bienvenue dans les films du vendredi. Aujourd'hui, je vais revenir sur Nicky Larson et le parfum de Cupidon de Philippe Lachaud, actuellement en salle. Bah oui, je sais, Black Snake n'est pas encore sorti et City Hunter n'est pas un héros français, mais justement, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment un jeune réalisateur de chez nous s'était approprié une œuvre japonaise. Et le moins qu'on puisse dire, c'est mission accomplie.
Monsieur Larson, c'est vrai ce qu'on dit sur vous ? Vous ne craignez personne. Vous êtes le meilleur des gardes du corps.
Alors, pour rappel, Nicky Larson, c'est d'abord l'œuvre du mangaka Tsukasa Ojo, avant de devenir une série animée culte pour tous les trentenaires d'aujourd'hui, hashtag Club Dorothée, hashtag Nostalgie des années 80, tout ça, tout ça. Et Philippe Lachaud, c'est à l'origine une série de sketchs pour le grand journal de Canal+, mais aussi et surtout trois premiers longs métrages qui ont affolé le box-office français depuis 2014. Babysitting avec 2 millions d'entrées, Babysitting 2 avec 3 millions d'entrées, et Alibi.com 3 millions et demi d'entrées.
Ça, c'était vraiment des super films. Hein,
ça fait un peu mal.
Ce qui est relativement colossal pour ces trois comédies à petit budget et qui ont motivé Philippe Lachaud à réaliser un rêve de gosse, ce sont ses propres termes. L'histoire de Nicky, jouée par Lachaud himself, un détective détective privé obsédé par les femmes qui vit avec Laura, l'incarnation parfaite de l'expression qui aime bien châtie bien.
Ou tsundere.
Tsundere.
Oui, voilà. Et oui, souvenez-vous, Laura, c'était la fille qui maltraitait Nikki avec un marteau gigantesque dès que son regard se posait sur une femme, alors qu'elle-même était secrètement amoureuse du beau brun musclé.
Pour me venger de toi, j'ai décidé d'abattre la femme que tu aimes. Qui ? Laura ?
Il est fou ! Ah oui, il est complètement fou. Il croit que Nikki est amoureux de moi. Si c'est vrai, il me le cache bien. Ce serait formidable en tout cas.
Et quand Élodie Fontan se glisse dans la peau du garçon manqué aux cheveux rouges, ça donne un rôle de composition magistralement interprété, à tel point que la Laura sur papier, ou plutôt sur écran, prend vie sous nos yeux. Personnellement, j'ai rarement vu un acteur incarner aussi fidèlement un personnage de manga. Pour moi, c'est vraiment le gros point fort du film côté casting. Et dans cette aventure inédite de Nicky Larson, notre détective privé est chargé de récupérer le parfum de Cupidon, volé par Mammouth, le méchant emblématique de la série. Et là aussi, je dois dire que la ressemblance est frappante. Là, pour le coup, c'est vraiment physique. Bravo à son interprète Kamel Glanfood. Donc, parfum qui rend automatiquement irrésistible celui qui le porte. Alors, c'est sûr, dit comme ça, ça fait rêver, mais ce n'est pas sans conséquences douloureuses ou plutôt hilarantes si l'on se place du côté du spectateur. Vous aurez le droit à des gags dans la lignée des précédents films de la show, avec de nombreux caméos d'humoristes populaires repoussant les limites de la pudeur. Des scènes d'action à la première personne très maîtrisées, un peu à la Hardcore Henry qui était sortie en 2016. Et donc, bon, voilà, qui sont relativement bien réalisés pour une comédie française, ainsi que de nombreux clins d'œil à la génération des années 80-90, un final qui semble revisiter une scène de Mission Impossible 2 de John Woo au vu du thème musical choisi et des répliques en elles-mêmes. Mais ce qu'il y a de fabuleux dans ce film, c'est son esthétique, kitsch à souhait, mais surtout des couleurs saturées comme s'il s'agissait d'un animé japonais ou plutôt d'un drama Renzoku adapté du manga d'origine à la manière de la série GTO en live action diffusé de 2012 à 2014 sur Fuji TV. À croire que la show, en plus d'être fan du Club Dorothée, était encore plus fan de la télé japonaise. Alors oui, vous allez me dire du coup que Nikki au ciné ça ressemble à un téléfilm. Eh bien je dirais plutôt qu'il s'agit d'un vrai film de cinéma reprenant les codes de la télé, mais que le plus important réside dans le fait que le film fonctionne aussi bien en tant que nouvelle comédie de la show qu'en tant qu'adaptation de Nikki Larson, ce qui aurait pu être très casse-gueule, alors je salue l'artiste. Moralité, si vous êtes sensible à l'humour coquin de Philippe Lachaud et si vous êtes fan de Nikki Larson, vous ne serez pas déçu par ce gros délire assumé et bien réalisé. Voilà, sur ce, les films du vendredi c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, j'ai une commande pour Philippe Lachaud, une adaptation de GTO avec lui-même dans le rôle d'Ekichi Onizuka.
Non.
Je sens que ça va être trop génial ce boulot. Ouais, comment je vais m'éclater.
Attends, le doublage français est dégueulasse quoi.
c'est Benoît Dupac. Il est extraordinaire.
C'est souvent le cas dans les années 90. Je sais pas si tu te souviens de Dragon Ball Z par exemple, le doublage.
Si, c'était atroce.
Alors, on va remercier Stéphane de nous avoir partagé sa passion pour le cinéma. Alors moi je vais me retourner vers Xavier pour lui demander depuis quand elle date sa passion pour les super-héros.
Alors ça date d'un autre siècle.
Je vous parle d'un temps.
Puisque je suis venu plomber la moyenne d'âge du studio. En fait, tout simplement, moi, mes parents trouvaient que c'était normal d'abonner un gamin à un illustré pour un illustré de bande dessinée. Et je me suis retrouvé abonné de force au journal du Mickey à l'âge de 3 ans. Et ça me parlait pas vraiment au journal du Mickey, sauf dans le cahier, une sorte de cahier central où il y avait Mandrake et Flash Gordon. Et ça... Ça, il y avait un truc qui était déjà où je me disais ça a l'air vachement plus rock'n'roll. Alors je connaissais pas le mot rock'n'roll à l'époque, mais il y avait
c'était une
chose...
porte d'entrée en fait.
Non, parce qu'en fait voilà quoi, je savais pas où trouver d'autres BD comme ça. Et pour raconter l'histoire secrète de comment je suis tombé dans les comics, un jour ma grand-mère a gagné un numéro de Strange dans une tombola, une kermesse, un truc comme ça. Elle s'est débarrassée de ce truc qui était radioactif dont elle voulait pas. Elle a filé ça à mon père qui s'en est débarrassé, il en voulait pas. Ça a descendu encore une génération et je me suis retrouvé avec des super-héros.
Strange, c'est Doctor Strange ?
Non, Strange, c'était le magazine mythique que tous les, les lecteurs de comics ont connu pendant 30 ans, où tu avais les aventures de Spider-Man, un personnage un peu connu qui a fait du chemin depuis.
Vous avez un gros fan de Spider-Man.
Oui, un gros fan un peu déçu des adaptations récentes, mais bon,
bref. Donc, c'était pas un numéro en finale, ça a été limite une tradition, pas une tradition, mais une transmission familiale involontaire qui vous a donné le virus.
Oui, parce qu'il savait pas du tout. En fait, il s'était dit, il va lire ça quelques années, il va se calmer. Et non, j'ai pas lâché.
Et vous en avez même fait votre métier, parce que vous êtes quand même journaliste et journaliste spécialisé dans les comics. Alors comment est-ce qu'on se spécialise comme ça dans un domaine?
On arrête de parler du reste. Non, mais en fait, le truc, c'est que un peu par accident, moi, j'avais commencé à collaborer à un fanzine qui s'appelait Looker, et le premier numéro que j'ai écrit, pour un type qui s'appelle David Fakrikian, qui collabore maintenant à Première. Et en fait, c'était le dernier, c'est le numéro qui est pas paru de Looker. Ouais. Mais il me connaissait, on se connaissait très bien, on était potes, et il savait donc que j'étais foutu d'écrire sur les comics. Et il y a un jour, il a laissé tomber une chronique sur les comics dans un autre magazine mythique qui s'appelait USA Magazine, et il m'a dit, écoute, je suis obligé de laisser tomber ce truc-là, prends la suite. Donc j'ai fait ça. Et on en parlait tout à l'heure, moi à l'époque j'étais infographiste, et il y a un moment où, comme infographiste, c'était un peu compliqué de courir après l'argent des clients qui voulaient pas payer. Je me suis rendu compte qu'écrire, c'était quand même beaucoup plus pratique. Il y a moins de mauvais payeurs dans ce métier-là. Maintenant, ça a un peu changé. Et je me suis, comme quelques articles sur les comics dans USA Magazine ne suffisaient pas, je me suis retourné vers la presse quotidienne. Donc à un moment, pendant quelques années, j'ai écrit en même temps les chiens écrasés, la politique, les trucs culturels dans un. Et c'est vachement formateur. Écrire pour un quotidien, je crois que je faisais une moyenne de 90 articles par mois. Et donc du coup, quand on a monté vraiment un magazine sur les comics avec un type qui s'appelle Fabrice Sapolsky, lui venait aussi de la presse magazine. Et on n'était pas des geeks qui faisaient leur petite récitation du truc que j'ai bien aimé quand j'avais 14 ans chez Tata, et voilà. On était capable de parler de l'impact politique de Batman ou de trucs. On avait, je pense, un recul sur ces séries-là, quoi.
Et du coup, suite à ça, vous avez réussi à vous êtes évidemment centré sur les super-héros dans les comics. Et du coup, comment vous les définissez?
En sachant bien entendu que les comics, ce n'est pas que les super-héros.
Voilà,
il y a plein de choses super intéressantes
aussi. Vous êtes centré pas mal là-dessus, mais.
J'ai fait un truc sur la Seconde Guerre mondiale et les comics, hein, mais c'est vrai que bon, les super-héros, c'est un peu la partie qui dépasse de l'iceberg.
C'est ça, mais du coup, comment vous les définissez, les super-héros? Une définition concise?
Je ne définis pas. Non, je refuse. Non, mais en fait, les super-héros, on ne les définit pas. C'est-à-dire que je peux vous montrer une photo de Superman, vous allez dire, bah oui, c'est un super-héros. Je peux vous montrer une photo de Hulk, vous allez me dire, c'est un super-héros aussi. Mais c'est pas les mêmes archétypes.
Mais vous dites dans votre livre que, en gros, c'est à partir du moment où le héros, en fait, protège, enfin, défend la veuve et l'orphelin, c'est un super-héros.
Non.
Non, c'est ce que j'ai cru comprendre.
Je ne sais pas quelle partie de vous.
Ah non, mais enfin, c'est dans votre.
Non, en fait, le truc, c'est qu'il y a le héros antique, typique, classique. C'est-à-dire, Robin des Bois, Hercule, Ulysse, des choses comme ça. Et ces personnages-là ont des aventures épiques. Et bien entendu, à un moment, ils sont plus ou moins altruistes. Hein, sachant que, par exemple, Ulysse sauve surtout ses fesses. Hein, ouais. C'est pas. Voilà.
Quasiment que ses fesses.
Voilà, c'est ça. Et il y a un moment où, dans tous ces trucs-là, dans les romans chevaleresques, de temps en temps, ils changent un peu d'identité. Il y a le chevalier à la charrette dans les trucs arthuriens, ouais. Et donc le gars se fait passer pour un mendiant pour entrer dans un château. Mais le jeu, c'est toujours un jeu d'opérette. C'est dans la scène suivante de démasquer en disant ah, c'était moi. Les super-héros, ils font pas du tout ça. Spider-Man n'utilise pas son masque une fois, puis après on passe à autre chose. Non, il n'arrête pas de reprendre le masque. C'est-à-dire que c'est ça qui est fascinant. On comprendra peut-être un peu plus tard dans l'émission pourquoi, mais Spider-Man, c'est un pauvre qui finalement prend son masque pour rentrer dans le monde des puissants. Et Batman, c'est un puissant au niveau économique, oui, qui prend son masque pour aller dans les bas-fonds. Donc le masque de super-héros, c'est un ascenseur social qui n'arrête pas de changer d'étage.
Et pendant que vous avez donc contribué en fait au fanzine Looker, c'est ça?
En fait, par la force des choses, ce numéro-là, il est jamais sorti. Hein, donc,
ah d'accord. Mais c'était à l'époque où il y avait Wizard aux États-Unis.
Non, c'est bien avant. Je pense que Looker, ça devait être 86.
Mais
Wizard a dû commencer en 92.
D'accord, ok. Parce que
et comme nous n'avions pas de DeLorean, nous n'avons pas pu aller voir.
Non, mais c'était pour savoir en fait si vous aviez déjà un petit peu regardé ce qui se faisait aux États-Unis en parallèle au niveau des pour essayer de calquer un format.
Non, parce qu'il y avait quelques magazines américains qui existaient, ça c'est vrai. Mais dans les comic shops de l'époque, moi je suis plutôt sur de la région lyonnaise, c'était très compliqué à trouver de manière régulière. Donc je voyais bien quelques couvertures. C'était pas forcément le truc. Donc j'étais pas forcément parti là-dedans. Par contre, j'étais tombé sur un bouquin. Avant de découvrir Campbell et compagnie, mais il y a un type qui s'appelle Vladimir Propre et qui a réduit tous les comptes russes en équations. Et ça, je m'étais dit, mais ça fonctionne avec les super-héros. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup inspiré dans plein de recherches que j'ai fait sur ces personnages-là.
Et du coup, après, vous êtes intéressé aux super-héros en général. À un moment donné, vous avez resserré. Pourquoi justement cet intérêt pour les super-héros français? Je crois avoir écrit un livre dessus.
Alors, c'est un, au début, c'est un pur accident. Je faisais de temps en temps, donc le Comic Box, c'est un magazine qui parlait beaucoup de comics.
Et donc, comme
on l'a dit tout à l'heure, quand on parle des comics, y a une partie non négligeable de super-héros. Et puis, de temps en temps, j'ai fait un article, je crois, à partir de 2000 sur un super-héros français qui s'appelait Fantax, un super-héros en rouge et noir, qui n'a rien à voir avec Jeanne Masse. Ouais. Et qui est paru vers 46-47 et dont le co-créateur a été beaucoup emmerdé par la censure et vraiment le gars a ramassé. Et vers, en fait, il y a pile 10 ans, je tombe sur les héritiers de ce type-là. Je retrouve la famille. Mmh. Donc super, je fais une interview avec eux. Et donc c'est vraiment un type qui a eu une vie, qui a créé un super-héros, mais qui a été résistant. Enfin vraiment, c'est un truc, sa vie mériterait un film, quoi. Mmh. C'est romanesque. Et puis la semaine avant que le magazine ne paraisse, je rappelle les gens en leur disant je vais vous envoyer le numéro où il y a votre interview. Et je les sens un peu tendus. Et ils me disent ah oui, on a vu parce qu'on pensait que vous étiez un fanzine, mais vous êtes un magazine. Et là, on est un peu, pas inquiet, mais on est un peu curieux de savoir ce que vous allez faire parce qu'il n'y a jamais eu d'article sur le grand-père dans la presse magazine. Et je me suis dit que personne n'a raconté son histoire en dehors des cercles qui savent. Mmh. Et là, à un moment, ça fait-il. Je me suis dit, cette histoire-là, il faut la raconter. Et ça, c'est la petite graine qui a fait qu'en pesant de plus en plus là-dessus, puis en trouvant, à chaque fois que je cherchais une. Je me disais, voilà, on va voir, il doit y en avoir 5, 6, 7, 12. Mmh. Et en fait, je sais plus, il y en a plus de 308 au moment où j'ai fini le bouquin, quoi.
Ouais. Et bien justement, on va parler de ces histoires, mais juste après. Avant de passer à la suite de notre émission, justement, où Antoine, on va parler de tout ça. Antoine va râler. Et on va s'écouter Je sais qui tu es de Avril et Monte.
C'est ça.
Exactement.
C'est la BO de Last Man.
Exactement. À tout de suite sur VL. De Avril et Monteil tiré de Last Man. Il est 20h23, vous êtes avec les As du Placard sur VL. Et Antoine, c'est à toi et en fanfare s'il vous plaît.
Salut les As et salut Xavier. Pour notre thème d'aujourd'hui, je me suis creusé un peu la tête pour réfléchir sur le concept de héros en France, et plus particulièrement ceux du quotidien. Vous inquiétez pas, ça va pas voler non plus très haut. On a vu la dernière fois qu'avec moi, c'est très rarement philosophique. On s'est mis d'accord sur le fait qu'un héros, oui, c'est pas toujours un taré avec un négro plus haut que le mien qui court en slow-bar, en collant et pour casser du brigand. Un héros français, c'est vous et moi, mes chers concitoyens. Un héros français, c'est un gars qui s'est dit « Putain mec, je vais créer le concept de jour férié ». Une héroïne française, c'est la même au Franprix qui a fait des courses pour la fin du monde et qui me voit avec mon pauvre paquet de pâtes et qui me fait « Allez-y jeune homme, passez devant ». Chaque jour, des femmes et des hommes font fi des dangers pour rendre nos vies plus belles, au péril même de leur propre vie. Ah bah si si, le mec qui va choper des bières à l'épicier du coin pour sauver la soirée à 3h du mat à Clignancourt, il joue ses bourses. Hein. Mais s'il fait ça, c'est que sa bravoure n'a que d'égal que la soif de ses copains. Bah ouais, suffit pas de s'appeler Richard Aldana et de péter littéralement la gueule à tout le monde sur une durée de 25 ans pour être un vrai héros français. Et je dis ça plus sérieusement pour le coup, mais le mec qui escalade un immeuble pour choper un bébé équilibré, c'est clairement un Avengers. Et tous les manifestants, quels que soient leurs idéaux, qui risquent beaucoup pour les défendre en ce moment, c'est carrément héroïque. Et de l'autre côté, les gardiens de la paix qui tiennent bec et ongle leur position contre les assauts, c'est pas rien non plus. Après, c'est mon interprétation. On rêve tous d'être un Wolverine ou Wolverine ou un Batman. Enfin, pour Batman, plus Marie que les autres. Et je pense que quand j'écoute rien de ce qu'elle dit et que je bosse pas assez sur l'émission, je suis en quelque sorte son Joker.
Non.
Non, ça va, t'es sûr? D'ailleurs, pour le coup, c'est plus simple d'énumérer des super-vilains que des héros, tiens. Parce que je vais pas tirer sur l'ambulance en parlant de politicard ou autre, mais vous les connaissez, ces super-vilains. L'abruti qui force pour entrer dans le métro blindé en te souriant niaisement, l'air de te dire désolé, lol. Non, pas désolé, Patrick, putain, il y a un métro toutes les deux minutes et on n'est pas serré comme des connards ici. Enlève-moi tout de suite ce sourire de tes lèvres. Bref, si je commence à en repérer des super-vilains, les bébés dans les avions, les gens qui braillent au téléphone, dans le bus, les vieux à la pharmacie, les oiseaux qui crient dès 5h du matin, ma proprio, le service client SFR. Bref, je m'arrête là sinon j'en finis plus. Détester des trucs, je sais faire que ça. De là à savoir si c'est mon super pouvoir, à vous de juger. Merci à vous et Marie, c'est à toi l'antenne.
Merci beaucoup Antoine de nous avoir fait partager tes super méchants quotidiens, on va dire.
J'en ai plus, hein, mais bon.
Eh ben, on en parlera
une
prochaine fois.
Ouais.
Voilà. Donc du coup, on va se reconcentrer sur Xavier, vu que bah, là, on a commencé. Du coup, juste, y a, dans votre livre, Super-héros, une histoire française, vous parlez d'un gars qui s'appelle Picot, que je me trompe pas, oui.
Alors on n'est pas sûr de son prénom, c'est Pierre ou François Picot, selon
oui,
le passage. En fait, le vrai truc,
qui est-il
le vrai truc, c'est que quand j'ai commencé moi à faire mes recherches, il y a un moment où fallait savoir où je mettais le curseur. Et on parlait tout à l'heure de ces gens qui ont des identités et c'est un modèle de un mode d'héroïsme qui change finalement au début du 18e, juste après la Révolution française. Et pourquoi? Parce que la société est en train d'exploser et que il y a un moment quand on regarde bien, il y a le pays a changé plein de fois de régime politique. Pas simplement, c'est pas comme un changement de majorité, c'est vraiment on est passé retour à la monarchie, tout ça, enfin voilà. Et donc des gars qui étaient des salauds sous un régime devenaient des gens super fréquentables sous l'autre. On a ce modèle-là avec Vidocq qui est passé du rôle de bagnard à premier flic de France. Et surtout, tout le monde, je crois que c'est le plein d'universitaires, je crois que c'est Umberto Eco qui a commencé en premier à dire que le grand-père de Batman, finalement, c'était le comte de Monte Cristo. Et comme moi, ça a l'air bête, mais c'est évident, enfin, ça va mieux en le disant. Je me suis pas contenté de lire des fiches Wikipédia sur le sujet. Je me suis dit, je vais me retaper le comte de Monte Cristo et dans des vieilles éditions, pas dans toutes les plus modernes, je crois, mais dans les vieilles éditions, à la fin, Dumas et enfin les gens qui écrivent pour Dumas expliquent qu'ils sont inspirés d'un fait divers. Et donc, je me suis penché sur le fait divers, et donc il y a un type qui s'appelait Picot et qui a une vie presque identique à celle du comte de Monte Cristo, si c'est que ça s'est fini très mal pour lui, et que on n'est pas entièrement sûr que les scripts qui ont rapporté l'histoire aient pas un peu déformé le truc, mais enfin il y a une étincelle de vérité. Donc au début du 19e siècle, le modèle du comte de Monte Cristo, c'est un type réel. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, quand je me suis lancé dans cette aventure-là, j'étais un peu inspiré par un auteur de super-héros français qui avait une vie héroïque aussi. Et je me suis vite rendu compte que finalement, il y avait un jeu comme ça qui se délimitait. Il y a un moment où, quand on met le nez là-dedans, on se rend compte que la culture est bien entendu influencée par la réalité, mais que des fois, la réalité est aussi inspirée par la fiction. Et on en retrouve des trucs. Par exemple, on retrouve des mouvements de résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1942-1943, je crois, en Normandie, les Allemands coréens, après un certain Fantomas. Mmh. Donc c'est vraiment il y a un moment c'est pas fictif réel quoi, ça se mélange un peu quoi.
Et dans une émission d'Antoine Decaune pour laquelle vous étiez invité il y a 2 ans il me semble, vous avez expliqué comme quoi il y avait aussi des vrais super-héros aujourd'hui au quotidien qui s'essayent.
La première que j'ai retrouvée date de 1867. Pendant un an et demi on peut retrouver dans les collections du Figaro de l'époque et d'autres journaux une femme masquée qui aurait patrouillé dans la rue de Paris à cheval en costume noir avec un masque, des sabres, se disant, alors c'est toujours compliqué avec la presse de cette époque, on ne sait pas quel point il brode, mais le feuilleton a passionné le tout Paris et tout le monde se demandait qui était la mystérieuse Amazone masquée.
Et vous nous dites qu'il y a des personnes qui ont réellement, du coup on voit qu'il y a des personnes qui ont réellement existé en France et qui ont été un terreau fertile pour les, comme Vidocq par exemple comme vous disiez avant, qui ont été un terreau fertile pour créer des super-héros. Est-ce que c'est propre à la France ou est-ce que ça a pu être exporté un peu ailleurs?
Non, en fait c'est un peu général. Il faut dire ce qui est propre à la France, c'est une certaine forme de tradition littéraire. Tout à l'heure je parlais de Dumas, le comte de Monte Cristo s'est beaucoup exporté aux États-Unis. Alors je suis pas en train de vous raconter, faut pas déformer le truc, je suis pas en train de vous raconter les Français ont créé les super-héros et les Américains nous ont tout piqué, c'est pas du tout le cas. Il y a une sorte d'échange culturel, c'est un peu comme moi je compare ça à avoir vous avez besoin de deux grands-pères dans la famille, sinon vous pouvez pas exister. Et vous demandez lequel des deux a été là en premier, ça compte pas, il faut les deux grands-pères pour la famille. Et là c'est un peu ça. Les Français ont exporté la tradition littéraire et le vengeur masqué finalement avec le comte de Monte Cristo, et les Américains nous ont envoyé ce qu'on appelle aux États-Unis le roman de prairie, c'est-à-dire les choses un peu comme le dernier des Mohicans, c'est-à-dire des héros sauvages un peu punchy qui règlent leur compte sans attendre qu'il y ait la police qui arrive et tout ça. Et quand on mélange les deux au-dessus de l'Atlantique, et ben ça crée ces personnages-là. Par exemple, il y a aussi des personnages qui ont vraiment existé. Il y a un type qui a existé en Australie qui s'appelle Nick, je ne sais plus comment, et qui a eu l'idée à la fin du 19e siècle, qui s'est dit la police nous course, mais si on se faisait des armures. Et donc le type braquait des banques avec des armures en métal, c'est-à-dire qu'on a l'impression de voir le prototype façon 19e siècle de l'armure d'Iron Man, le début du premier film, l'armure en métal comme ça, jusqu'à ce que la police se dise bah oui mais on a qu'à leur tirer dans les pieds. Mais il y a un fond réel, il y a un fond réel de ces trucs là.
Mais quand on regarde les héros dont vous parlez au niveau de la France, on a plus l'impression que ce sont des personnes, effectivement, ce sont des vengeurs qui cherchent la rédemption et tout, etc. Donc, mais il n'y a pas cette notion de on va protéger la veuve et l'orphelin.
Ça vient au fur et à mesure du 19e siècle, parce qu'effectivement, le comte de Monte Cristo, si vous le relisez, c'est terrible. Vous ne voulez pas en colocataire, le type. Hein. Quand il se venge, il n'en a rien à foutre de s'il se venge aussi de la femme, de la petite fille et du cousin. Ils ramassent aussi, même s'ils n'ont rien fait. Donc c'est vraiment
un truc. C'est le même type de vengeance que Bruce Wayne.
C'est pas la même vengeance, mais c'est une vengeance dévorante. Et il y a un moment où quand même Bruce Wayne, il a croisé Robin, il s'est un peu tranquillisé, il est redevenu un peu humain. Il y a des choses comme ça. Mais globalement, il y a cette même passion dévorante, c'est-à-dire que c'est une espèce de quête sans fin, quoi. Et donc
proche du Punisher par exemple, si tu veux, Stéphane. Le traque dans le lot. Quoi.
C'est pas faux. Nous on a amené cet angle-là. D'autres cultures ont amené d'autres choses dans le pot commun. Il y a des super aussi japonais du début du 20e siècle. Et pour répondre à la question sur le côté moral, bah il y a une espèce de basculement vers la fin du 19e siècle, peut-être sous l'influence de choses genre la Commune ou des trucs comme ça, où d'un seul coup le héros devient plus altruiste. Il y a un personnage qui s'appelle Rocambole, qui est une sorte de fantomas, qui est une vraie pourriture pendant les premiers romans, puis à un moment il part en prison. Et en prison, il y a une épiphanie, il ressort, il décide de faire le bien. Et là, quand on lit des trucs, on a l'impression de lire Batman sans le costume.
Et du coup, est-ce qu'on a un vrai premier super-héros français avec le tutti quanti, les pouvoirs?
Alors, souvent les gens vont parler d'un personnage qui s'appelle le Nyctalope. Le Nyctalope, ça veut dire le personnage qui est un type qui voit la nuit, qui date de 1911. Alors, il y a beaucoup de confusions qui sont faites autour de ce personnage-là, parce qu'en plus, les gens qu'on parle n'ont pas toujours lu les bouquins. Mais en fait, il y en a une avant, qui s'appelle Loisel, le féminin de l'oiseau.
Ah oui.
C'est une héroïne en combinaison noire avec des ailes en métal qui ressemblent vraiment quand même à des ailes de chauve-souris, qui date de 1909, qui a une ceinture à gadgets, donc qui vole au-dessus de Paris pour protéger son fiancé. Qui a des pilules pour pas manger, pas dormir, et qui a un mentor télépathe. Alors non, je pense pas du tout que
c'est un hasard.
Ouais, non, c'est en fait. on voit ça finalement en biologie, c'est-à-dire sur des continents différents, vous avez des races différentes qui occupent la même niche. Et c'est un peu la même chose en créativité, c'est-à-dire que avec le même cahier des charges, finalement, des gens vont retomber sur les mêmes solutions. Alors des fois, on retrouve une vraie généalogie. Et honnêtement, on peut refaire la généalogie de Batman. Il y a un petit côté français qui vient des personnages qui s'appellent Judex. Un personnage de film, hein, parce qu'on aura peut-être le temps d'en parler, mais il y a aussi très tôt des films français de super-héros. Et donc, voilà. Mais après, c'est pas simplement parce qu'un personnage est habillé en noir et qu'il a des chauves-souris qu'il est forcément à la base de Batman.
Mais vous dites que la démocratisation des super-héros, finalement, elle a été plus difficile en France, si je comprends bien, à cause de notre politique, en fait, d'après-guerre.
C'est exactement pour les mêmes raisons qui ont fait qu'ils ont existé. C'est-à-dire que tous ces changements de régime faisaient qu'un auteur, un romancier, un éditeur disparaissait dès qu'il y avait un truc. En plus, effectivement, il y a le poids des deux guerres mondiales et surtout de la deuxième qui fait que, donc, quand les Allemands arrivent, on fait une petite épuration de l'édition du monde éditorial en France. Et donc, il y a des gens qui perdent leur emploi, d'autres qui disparaissent, donc qui sont remplacés par des gens amis du pouvoir de l'occupant, qui sont eux-mêmes remplacés 5 ans plus tard. Et il y a un moment, vous voyez bien après, par exemple les BD ou même certains types de romans disent « Ouh là là, moi la politique j'y touche plus, c'est nia en merde et on n'y va pas là-dessus ». Et comme ces justiciers forcément ils ont un discours sur la société, ça calme beaucoup les vocations. Ça c'est une première chose, il y a moins de production. Et puis en plus, arrivent les milieux conservateurs qui ont joué un grand rôle dans ce qu'on appelle la loi de 1949, qui est un truc pour vraiment encadrer les publications sur la jeunesse, pour emmerder les créateurs. Et donc à ce moment-là, on invente ce truc-là. On dit, quand on voit passer je parlais tout à l'heure de Fantax, qui est un personnage extraordinaire, qui est une sorte de. C'est un super-héros un petit peu en option les tontons flingueurs, finalement. Oui. S'il a besoin de décapiter un ennemi à coup de pelle, il y va, il va pas le gêner. Mais le truc, c'est que à ce moment-là, l'extrême droite et l'extrême gauche tombent sur ces personnages-là en disant c'est pas de chez nous, c'est des idées que les étrangers essaient de mettre dans les cerveaux de nos enfants. Et ça va créer, en plus, un quatrième Reich, et ça sera la Troisième Guerre mondiale. Enfin voilà, il y aura une génération de serial killers, le mot n'existait pas, mais c'est comme ça qu'on présente la chose. Et vous pouvez constater qu'on est tous devenus des serial killers, bien entendu.
Surtout Antoine.
Ouais, ça va.
Un stalker, c'est pas pareil.
C'est pas vrai.
Bon, on va faire une pause, il est 20h36. On va s'écouter Super Heroes de You Love Her Cause She Died. On revient après, toujours avec Xavier Fournier, pour parler des super-héros français. Aujourd'hui, je vais faire ma chronique aussi, parce que oui, il le faut bien. À tout de suite sur VL.
We'll be right back.
c'était Super Heroes de You Love Her Cause She Died. Et bah c'est à moi.
Oh my gosh, hold on to your hooves. I am just about to be brilliant.
Hey, aujourd'hui on est le 15 février, joyeux jour du noisetier et joyeux anniversaire à l'actrice Jane Seymour qu'on connaît surtout pour cette série.
Qu'une femme médecin ne pourrait pas se faire.
Ah oui, effectivement.
Oh, ça peut être...
Docteur Queen.
Docteur Queen, c'est ça.
C'est Docteur Queen, femme médecin. Et c'est aussi l'anniversaire du créateur des Simpsons, de Futurama,
Matt
de
Groening. Des
Enchantés. Oui.
Je suis né le même jour.
C'est l'anniversaire aussi de cette chanteuse.
J'aime tes yeux.
J'aime ton Axel Red.
Tes gestes en le cerveau.
Je sais pas ce qui me fait peur.
Pourquoi l'extrait est si long? Pourquoi l'extrait est si long?
Parce qu'on aime.
Et ben c'est, et voilà, et c'est aussi l'anniversaire de cette chanteuse.
Ma bouche a peur quand tu tardes au bonheur. Elle s'affale au bout de...
Cœur de pierre,
Farmer.
Zaz.
Non, C'était Élodie Frégé. Et, ah. Et c'est aussi l'anniversaire de Stéphane.
Ouais.
Voilà. T'as le droit à une chanson de poney.
D'accord, bah merci.
C'est dans le thème, Stéphane.
Je suis très touché.
Et pour rendre hommage à notre chroniqueur ciné, je voulais parler d'une héroïne de la bande dessinée française qui a été adaptée au cinéma par Luc Besson en 2010. Il s'agit d'Adèle Blanc-Sec. Alors, je vais pas parler du film car je l'ai trouvé
ignoble.
Mais une question me vient. Adèle Blanc-Sec peut-elle être considérée comme une super héroïne? Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a été créée par Jacques Tardy en 1976 et Adèle est une jeune écrivaine de romans policiers du début du XXe siècle qui, au bout d'un moment, se dit « je vais peut-être écrire mes propres aventures » et elle a bien raison. Alors, au niveau de l'identité secrète, on n'y est pas trop, je vous l'accorde, mais quand on regarde ces histoires, toi, quand tu vas au Jardin des Plantes, c'est pas pour chasser le ptérodactyle, tu vas pas combattre une secte adorateur du démon Pazuzu au sommet de la Tour Eiffel, rencontrer un pithécanthrope place d'enfer Rochereau, te balader avec ta momie Patmosis au Louvre ou croiser des tentacules géantes au Halles.
On remarque que c'est intramuros, ça ne va pas.
Moi, j'aimerais bien.
Non, voilà. Adèle, c'est grâce à son intelligence et ses moments réflexion bain-clope qu'elle arrive à déjouer des complots de savants plus que fous, puis elle agit, mine de rien. C'est pas la nana qui se cache derrière les hommes, anarchiste désabusée, elle y va la Adèle. Puis elle meurt aussi, hein. Et elle revient à la vie grâce à la science, si c'est pas un truc qui sort de l'ordinaire. Alors je sais pas quoi dire de plus. À mes yeux, Adèle Blanc-Sec mérite une petite étiquette de super-héroïne, hein, qui sauve Paris, de monstres humains ou non, sans qu'on le sache. Alors ok, elle a pas de gadgets, niveau fringue, elle change de look après sa résurrection, elle se coupe les cheveux d'ailleurs, pas de super-pouvoir hormis son cerveau, donne parfois de faux noms. Alors je sais pas si Xavier sera d'accord, hein, mais personnellement, elle aura toujours une place à part dans mon cœur, puisqu'elle fait partie avec Barbara la Tank Girl des super héroïnes de mon adolescence. Et je remercie mon papa de m'avoir foutu ses albums dans les pattes et Monsieur Tardy de l'avoir créé. Voilà, parce que je vous ai donné au moins envie de m'adresser à Adèle Blanc-Sec.
Ah ouais. Moi j'ai bien aimé le film, donc je vais rien dire. Mais...
Ah, t'as bien aimé le film.
Ah, j'ai bien aimé le film, ouais.
Ah, un petit plaisir. Ah,
vous avez quelqu'un de votre famille dans la distribution?
Merci Xavier.
Xavier me remplace ce soir.
Voilà, ça c'est.
Voilà, donc on va changer. On va parler du champion de la semaine, hein, voilà. Pas comment faire la transition. Ce mercredi, à vers 3h30, trois hommes se faisant passer pour des policiers de la BAC au volant d'une voiture avec un gyrophare bleu ont tenté d'arrêter un homme au volant de sa BM. Ça se passe à Marseille. Hein. Manque de peau, le gars qui s'est fait arrêter par ces trois coucons, voilà, est sorti, les a regardés, leur a fait « Bah écoutez, la BAC, c'est moi ». Inutile de dire que les gars ont été arrêtés. Je sais pas si ça a été très compréhensible. Mais
si, t'inquiète.
Voilà. On a compris l'idée, c'est l'essentiel.
Ouais. Voilà, donc voilà, Eskip, c'était Adèle Blanc-Sec. Attention, le dicton du jour, à la Saint-Claude, regarde ton seau, tu ne le verras pas plus haut.
Tu veux aller chercher où, cela?
Je sais pas.
Ça a déjà été posé, mais...
Je demande à chaque fois, je sais pas d'où elle sort ce truc.
Je comprends pas la sagesse des anciens. Alors, on va revenir sur les super-héros français. Petit changement de décor, attention, voilà. Alors, est-ce qu'on peut parler, tout à l'heure on a vu qu'il y avait quand même eu une époque il y avait eu ce moment de censure en fait, qui a été, enfin, ça s'est passé aussi en Amérique, il y a eu tout un mouvement de censure, il y a eu un mouvement de censure en France, est-ce que justement il y a eu aussi un mouvement d'âge d'or des super-héros français?
Alors ça dépend si on parle en BD, en roman, en film, suivant les médias, l'âge n'est pas exactement le même. Juste une petite parenthèse pour aussi, voilà, vous preniez une voix un peu chevrotante. Faut bien que, peut-être que j'explique aux gens qui nous écoutent parler que moi, ce que j'ai écrit, c'est pas du tout dans un espèce d'esprit revanchard, chauvin. Non, mais je le dis pour les gens qui n'ont pas accès au bouquin et qui pourraient se dire, là, il est en train de nous faire une espèce de roman national à la Zemmour. C'est pas du tout ça l'idée. Au contraire, je trouve au contraire qu'en allant puiser dans cette masse-là, on se rend compte justement de ce qui a accouché de notre siècle, en fait, finalement.
finalement. Et c'est pas des petites phrases de voilà de pseudo type.
Non, c'est comprendre les origines. Ouais. On a bien
tout
compris.
À fait. Ouais,
bien sûr.
Et donc le l'âge d'or. Alors pour par exemple pour les films de super-héros français, il faut sans doute taper vers du 1913-1920.
Les films muets, je crois.
Il y a des films muets. Il y a donc il y a Louis Feuillade qui a écrit plein, qui a tourné plein de choses. En particulier un truc qui s'appelle Les Vampires. Alors, ça serait plutôt des super-vilains. Ça c'est une bande vraiment de trucs. Mais Les Vampires, il y a une femme fatale dedans qui s'appelle Irma Webb. Donc l'anagramme de vampire. Et au point que ce truc a tellement eu un succès fou que c'est sans doute, on dit que c'est ce qui a imposé le mot vamp. Donc il y a plein de choses comme ça. Il y a un super-héros qui, enfin un pseudo super-héros qui s'appelle Balaou l'homme singe. Balaou l'homme singe, c'est un singe qui a été traficoté par un savant fou pour en faire un humain. Mais il a gardé ce qu'on appelle ses pouvoirs de singe. Alors en réalité, c'est plus une sorte de Spider-Man. Il marche sur les murs parce qu'apparemment les singes ont le pouvoir de. Voilà. Ouais. Donc c'est comme ça.
Il y a le concombre man aussi, je crois.
Non mais
c'est vrai. J'ai vu ça. Ça existe, ouais, concombre man ou un truc comme ça.
Le concombre masqué.
Non, masqué. Le concombre masqué. J'ai vu
ouais,
ça.
Mais ça. Alors, là, on est plus dans.
C'est la parodie,
c'est,
ça,
une forme, c'est même pas de la parodie, c'est une forme d'allégorie de concombre basque Émile. Ouais. Le Balaou, ouais. C'est le roman a été produit en même temps qu'un film, qui a eu un tel succès qu'ils ont fait un reboot, mais 2-3 ans plus tard, et que ça s'est exporté aux États-Unis. C'est un film qui s'appelle Le Démon Babouin, The Demon Baboon. Dans une scène, Balaou, un ennemi de Balaou, un autre singe qui se fait passer pour lui, monte en haut de la tour Saint-Jacques à Paris et commence à balancer des cailloux sur les passants pour les tuer.
J'ai trop envie de voir ça.
Le film. Non, mais le film. Bah oui, parce que le film s'exporte aux États-Unis. Ouais. Le démon, ça s'appelle Le Démon Babouin. Et après, vous avez cette fameuse scène de King Kong.
Oui.
Donc, voilà, tout ça. Et tout ça, toujours dans une idée de ne pas dire on est les premiers. Mais toutes les choses se conjuguent. Et l'un dans l'autre, eh ben, on a contribué aussi à ces trucs-là.
Ok. Ouais.
Non mais je trouve ça génial. Enfin, je suis désolé.
Mais du coup, je vais le regarder ce soir, je pense.
Carrément. C'est un film.
Entre la tour Saint-Jacques et l'Empire State
Building. Il y a un truc qui s'appelle l'aviateur masqué. C'est un mec qui aux commandes d'un biplan et quand on voit les photos, on a l'impression de voir Batman avec une chapka.
D'accord.
Mais justement, vous parliez aussi de Batman tout à l'heure en disant qu'on pouvait le rattacher au conte de Monte Cristo. Apparemment, on peut aussi le rattacher dans votre livre. Vous l'expliquez, on peut le rattacher aussi à Nemo, le capitaine Nemo.
Oui, parce qu'il y a une sorte de descendance, c'est-à-dire que le capitaine Nemo, plus que le capitaine, hein, attention, c'est le capitaine Nemo. En fait, c'est une sorte de Monte Cristo, de personnage un peu polymorphe comme ça, qui est par contre vachement plus fortiche en technologie. Et puis même quand on regarde dans le contexte, nous maintenant avec nos yeux modernes, on regarde ça, on dit oui, bon, le scaphandre, mais quand on remet à l'époque, le scaphandre, c'est l'armure d'Iron Man aujourd'hui. Hein, c'est un truc de voilà, il y a vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, Alan Moore, donc un auteur de comics à succès, dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui est une sorte de proto essai sur les super-héros, et ben vous retrouvez le capitaine Nemo dans un rôle comme ça, quoi.
Et on peut aussi rattacher Gwynplaine de L'Homme qui rit de Hugo.
L'homme qui rit, l'adaptation en film muet, c'est une des inspirations du Joker. Donc moi, je crois le premier ou deuxième paragraphe de mon bouquin, j'explique que finalement les gens réalisent pas, mais quand il y a Batman qui tape sur le Joker, c'est une petite partie d'Alexandre Dumas qui tape sur Victor Hugo. Ou vice versa.
Et au niveau des magazines qui étaient sortis, je crois que c'est dans les années 80, comme Fluide Glacial et Pilote, est-ce que
ça date d'avant,
hein. Ouais, même avant, peut-être même les années 70. Est-ce que ça a contribué à la démocratisation justement des super-héros français? Alors évidemment, c'est de la parodie, mais est-ce que la parodie a permis d'avoir une porte d'entrée, on va dire pour les masses?
Il y a parodie et parodie. Par exemple, quand Gottlieb fait des choses comme le Super Dupont, et puis un truc, une espèce de parodie du Silver Surfer de Marvel qui s'appelait le patineur d'argent, où on croisait Super Dupont, c'est fait avec beaucoup de formes de tendresse. Et en plus, les gens se trompent souvent sur la signification de Super Dupont, qui avant d'être une parodie super-héros américain est surtout une parodie de français.
Donc les gens, c'est François le français en fait.
Oui, tout à fait. Mais les gens se trouvent. Moi je tombe sur plein de gens qui me disent avec Super Dupont ils se sont moqués des super-héros. Bah oui, il y a un épisode avec Superman ou une caricature de Superman.
C'est surtout super français.
Mais c'est surtout super français. Et puis voilà. Donc, tout à l'heure, on parlait de. Il y avait un bout de générique de HeroCorp. HeroCorp, il y a un ton comique, mais il y a aussi une analyse derrière ce ton comique, et c'est fait avec beaucoup de tendresse sur les figures du super-héroïsme. C'est pas quelque chose qui est fait pour voilà. Maintenant, il y a toute une forme de parodie qui est autre, qui est pour se rassurer. Effectivement, où il y a des auteurs qui se sont dit ah, on va taper sur les gros machos américains. C'est leur droit, hein. Il y a pas de truc, mais c'est juste que je trouve ce qui est dommage, c'est que ça contribue à cette idée que c'est pas de chez nous. Que du coup on enterre tout un moi j'avais des caisses, moi quand j'ai fini d'écrire le bouquin, j'avais des caisses chez moi, j'avais plus de vie sociale, je pouvais pas faire rentrer des gens dans le living, et il y a un nombre de bouquins, de films qui sont jamais ressortis, de choses comme ça, et on contribue à les mettre encore plus bas en disant on va pas s'en inspirer, c'est pas de chez nous, donc on y touche pas. Et donc du coup voilà, je trouve que c'est dommage, non pas parce que c'est des personnages qui sont exceptionnels, qui sont tellement mieux que les autres, mais qui sont pas plus cons que les autres, et fondamentalement c'est con qu'on ait pas le choix.
Et est-ce que HeroCorp justement ce serait un petit peu l'espoir, malgré tout ce que vous dites, mais un petit peu l'espoir de redonner envie aux lecteurs de se mettre à découvrir des super-héros français, de repiocher finalement dans les archives.
Sans doute, et puis après il y a plein de choses qui sont faites aussi, notre rapport, y compris depuis la libération, notre rapport avec le patriotisme est un peu compliqué quand on commence à dire un truc français derrière, ça évoque plein de réactions, plein de malentendus possibles et des choses comme ça, donc le super-héros français en plus avec l'idée de supériorité, ça peut créer des trucs un peu bizarres, mais globalement le super-héros c'est pas le surhomme de Nietzsche. Superman, pour parler du type emblématique, et comme ça tout le monde comprendra, Superman c'est le type puissant qui au contraire aime rentrer parmi les gens de la rue, quoi. C'est pas le type qui nous surplombe, c'est le super-homme, c'est pas le sur-homme finalement, et ça fait que c'est une figure beaucoup plus sympathique, le super-héros, qu'on pourrait croire, quoi.
Et est-ce que du coup dernièrement avec Last Man de Bastien Vivès et Balak ou Les Sentinelles de Xavier Dorison, on assiste un peu à un renouveau du genre en France, et est-ce que du coup à la suite de ça on assistera peut-être plus tard à un boom des comics français?
Alors je pense que Last Man c'est une figure à part entière. Ils ont fait un tel exercice de synthèse d'influences différentes qu'ils ont créé un ovni, et c'est un truc à eux qui est pas dans un genre en particulier. Ça c'est mon avis à moi. Après effectivement les Sentinelles, en plus ça a l'avantage de resituer des personnages un peu à la pseudo Iron Man, pseudo Captain America dans la Première Guerre mondiale, et ça a parlé à plein de gens. Il y a un truc qu'il faut pas non plus omettre, c'est une série qui s'appelle La Brigade Chimérique.
Ça me dit un truc. Ça.
Et c'est bien, voilà, il y en a qui ont révisé. Et la Brigade Chimérique explique comment les super-héros français disparaissent juste avant la Seconde Guerre mondiale, au fur et à mesure que les Allemands sont en train de prendre le pouvoir en Europe. Et avec, justement, ils ont fait un travail d'inventaire là-dedans, ils ont vraiment été chercher plein de super-héros qui existaient, qui avaient disparu, qui sont dans le domaine public. Il y a plein de choses comme ça. Il y a beaucoup de réalisateurs qui veulent faire des films avec beaucoup de difficultés, parce qu'ils tombent sur des producteurs qui leur disent c'est pas notre culture.
La dernière question qu'on va vous poser, en fait, à la base, c'était les super-héros français, c'est dans notre culture, mais justement, là, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on considère pas ça de notre culture ?
Parce que il y a beaucoup de choses d'abord qui font que, en particulier pour ne parler que du cinéma, mais ça joue aussi dans l'édition. Depuis la fin des années 60, on se méfie beaucoup de l'idée du genre. Non pas le genre homme-femme, mais le genre le policier, truc comme ça. Et on s'est mis dans la tête que y a le travail d'auteur et le travail de genre, et qu'un vrai auteur ne collabore pas à un genre, ce qui est idiot, parce que tout relève d'un genre à un moment ou à un autre. Et puis un bon auteur va prendre un genre et arriver à s'en émanciper. On peut, je commence à citer des cinéastes, suivant que vous aimez ou pas, vous aimez, bon bref, Spielberg, voilà, il va prendre des trucs de genre et il va faire des choses comme ça. Tarantino à sa manière va faire ça. En France, on dit non, le type, il va faire une tragédie, une comédie dramatique sur un prof yougoslave qui est en plein divorce, ça va aller, c'est super.
Les drames sociaux.
Ah ouais, c'est super. Ou alors, vous avez les grandes figures comiques, non pas comics, comic book, mais comiques qui vont vendre sur leur nom un truc. C'est-à-dire que si on veut refaire un reboot des films de Fantomas aujourd'hui, on ira chercher un Danny Boone et on refera les Fantomas comiques des années 60 qui étaient très bien. Et pourquoi on fera, peut-être qu'on fera un bon film, mais on passera complètement à côté du sujet de ce fantomas vaporeux, ténébreux du début du XXe siècle qui est terrible. C'est un Ben Laden sous un masque. C'est vraiment sanguinaire. Donc il y a du matos à aller explorer. Et donc on dit non, c'est pas de chez nous.
C'est très bien dit. En tout cas, si j'ai quelque chose à dire, c'est vraiment très bien dit. C'est parfait.
Pour le chèque, on fait comment
Alors, il n'y en a pas, c'est une radio associative.
En tout cas, merci Xavier Fournier d'avoir répondu à toutes nos questions. On va encore vous en poser peut-être quelques-unes.
Ouais, parce que je voulais parler aussi peut-être d'une exposition qui va arriver. Ouais.
On en parlera juste après. On va s'écouter Sunshine Superman de Donovan. Il est 20h51. Vous êtes avec les As du Placard sur VL. A tout de suite.
Sunshine came softly through my window today. Could have tripped out easy, but I've changed my way. It'll take time, I know it, but in a while you're gonna be mine, I know it. We're doing it in style. I made my mind up, you're going to be mine. I'll tell you right now, any trick in a book, and I'll be there, all that I can find. Superman or Green Lantern ain't got nothing on me. I can make like a turtle and dive for a puzzle in the sea. Thinking on your velvet throne, yes. How about all the rainbows that you can have for your own? 'Cause I've made my mind up, you're going to be mine. I'll tell you right now, any trick in the book, and I'll be there, all that I can find. Everybody's hustling, just to have a little scene. When I say we'll be cool, I think that you know what I mean.
Vous venez d'écouter un morceau de Sunshine Superman de Donovan. Et oui, je le coupe. Et vous êtes toujours avec les As du Placard sur VL. Donc, on est toujours avec Xavier Fournier et qui voulait nous dire un petit mot.
Je sais pas.
C'est parfait. Non, voilà, salut.
Oui, en fait, vous parlez d'une exposition qui commence en fait tout simplement lundi à Rennes. Ouais. Une exposition sur les super-héros français qui est organisée par une association qui s'appelle Saute-Requin. Et donc, qui est avec un certain nombre de conférences, dont une de moi, pour pas te cacher, mais qui est surtout, je pense, la plus grosse réunion de planches de tirées de bandes dessinées de super-héros français sur des décennies. Je crois que je veux pas dire une bêtise sur le chiffre exact de planches, mais il y en a vraiment un paquet et ça va reproduire. Alors il y a des originaux et des reproductions, mais il y a plein de choses. Il y a des gens aujourd'hui qui font des super-héros très inspirés. Par exemple, je pense à Foxboy, hein, d'un dessinateur et scénariste qui s'appelle Laurent Lefebvre, donc qui doit en être à 3 ou 4 tomes, en comptant celui qui est en cours de production. Il y a plein de choses comme ça, et en fait c'est vraiment un genre vivant, mais souvent on passe à côté. Et s'il y a des gens qui sont du côté de Rennes, à partir de la semaine prochaine, bah, peut-être qu'ils aillent un peu regarder sur les autoroutes de l'information pour choper le détail de cette exposition. Mais je pense qu'il y a des choses qui vont les amuser, les faire réfléchir, peut-être même vouloir en voir plus.
C'est où à Rennes du coup?
On a un intérêt.
Je vais aller voir ma famille.
Sachant que je viens de là-bas, effectivement.
C'est dans une bibliothèque universitaire, mais je n'ai plus le nom.
Il y en a deux, il y a celle de Rennes 1 ou celle de Rennes 2. Donc voilà. C'est l'une ou l'autre.
J'avais le choix. Mais
sachant qu'il y en a une au nord et une au sud. Du coup,
c'est pas géant, Rennes non plus.
Ça marche. Bon,
Et alors, moi, j'aurais juste une petite question qui n'a pas grand chose à voir avec ce qu'on vient de dire. Mais quand même, quand on parle de super-héros, généralement, on a tous un super méchant préféré. On a parlé des super-héros français. Est-ce qu'il y a des super méchants français emblématiques?
Alors j'ai parlé de Fantomas tout à l'heure. C'est pas rien, Fantomas. On a effectivement, je parlais aussi de Irma Webb dans les vampires, donc la femme fatale par excellence. On en a un petit paquet comme ça. Et alors souvent c'est des personnages aussi un peu ambigus. C'est-à-dire que c'est des types qui font le mal, mais qui sont capables d'une autre manière d'être aussi un petit peu.
Quand on comprend les motivations.
Non, pas forcément. Les méchants français, ils sont bien méchants, mais ils peuvent avoir une certaine manière de tomber aussi sur la concurrence, qui fait que ça arrange bien les héros, que l'un dans l'autre ça fonctionne. Et je parlais tout à l'heure de Rocambole qui a cette épiphanie, donc que je comparais à Batman, donc un type qui est passé par le bagne, qui décide de fonder un truc qui s'appelle à un moment le clan des Chevaliers de la Lune, et qui a en ennemi juré une autre femme fatale qui s'appelle la Belle Jardinière. Et il est difficile de pas lire ce truc là et de pas penser à Poison Ivy qui est une ennemie de Batman.
Clairement.
C'est la meilleure.
J'ai une grande fan de Batman ici présente.
Non, surtout de Poison Ivy.
Ouais,
bon, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à conclure. Musique.
J'aime bien, moi je suis désolé.
Conclure, je citerai Albert Camus. Les héros ont notre langage, nos faiblesses, nos forces. Leur univers n'est ni plus beau ni plus édifiant que le nôtre, mais eux du moins courent jusqu'au bout de leur destin. Qu'importe leur pays d'origine, les super-héros nous parlent car ils nous ressemblent. La culture, l'époque de laquelle ils sont issus n'est pas un frein à leur compréhension puisqu'ils portent des valeurs universelles. Ils nous exhortent à sortir le meilleur de nous-mêmes, à douter, à nous questionner, mais à ne jamais abandonner. Xavier Fournier, merci d'avoir fait cette émission avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment.
Vous êtes débrouillé pour faire rimer, abandonner et fournir, c'est bien, bravo.
J'ai beaucoup de talent. Alors pour les auditeurs, vous pouvez suivre Xavier sur Facebook, Twitter, Instagram, ainsi que sur votre site xavierfournier.com. Ok, donc vous pouvez aussi vous procurer ses ouvrages Super-héros, une histoire française, Super-héros français, une anthologie, Super-héros l'envers du costume, ou Comics en guerre, ou à l'occasion, si vous êtes effectivement à Rennes, vous pouvez le voir à partir de aller à l'exposition à partir de lundi. Vous pouvez le retrouver d'ici 15 jours vu que Xavier du coup fera une conférence, et demain ou dimanche, je ne sais plus,
tout le week-end en fait, parce que je m'occupe d'un cycle de conférences qui à Paris Manga, donc
voilà.
Je fais venir aussi des amis pour qu'il n'y ait pas que moi qui parle, mais il va y avoir une vingtaine de conférences, alors à la fois pour les 80 ans de Batman, puis pour plein d'autres super-héros, plein de choses comme ça. Je fais aussi une conférence sur les super-héros africains, donc ça voilà.
Ouais.
Donc il n'y a pas que pour les Français ou les Américains,
effectivement. Ça peut-être une prochaine émission.
Ouais.
Je vais remercier mon équipe pour leur travail. Merci Stéphane pour ta critique de Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Merci Antoine pour ton cul de gueule, et merci Vincent d'avoir été là.
C'est déjà pas mal.
Cul de gueule.
Et Karl, oui, je suis fatiguée. Et Karl, merci pour ton travail en régie.
Ouais, mais franchement, c'était déjà super utile. Je suis fier de moi.
Retrouvez les adultes du placard sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, ainsi que sur le site de VL et sur iTunes. On se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure. Il est 21h. Je vous laisse avec le Toy Boy. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée. Et à la semaine prochaine.
Ciao.
Décrypter, informer, divertir. Tout se passe sur vl-media.fr et sur ton app VL.